Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce programme Parole de citoyen, Radio Citoyenne, un projet mené et réalisé conjointement par ces radios associatives en Loire-Sud, mené dans le cadre du contrat de ville qui consiste en la mise en place de rencontres radiophoniques organisées, produites et réalisées par Radio Ondaine et Radio Dio dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Radio Dio et Radio Ondaine, je le précise, proposent depuis 2016 maintenant cette série d'émissions réalisées donc dans les quartiers prioritaires de l'agglomération de Saint-Étienne Métropole dans le cadre de la politique de la ville. Alors nous poursuivons ainsi notre itinérance radiophonique aujourd'hui et toujours en cette année 2024 avec un nouveau volet, je dirais matinal et estival, faisant escale sur une des communes de la métropole stéphanoise. Nous sommes au cœur même de l'Ondaine, à Firminy, au centre social du Soleil Levant. Et nous sommes là dans la cour du centre social, en plein air. On pourrait retenir et relever un enjeu principal pour cette émission qui va tenter d'apporter un éclairage sur les démarches engagées dans cette vallée de l'Ondaine en matière d'alimentation et l'occasion également d'apporter un nouvel éclairage sur la politique de la ville et notamment le nouveau contrat de ville qui vient d'être signé, un plan qui va courir jusqu'à 2030. Solidarité alimentaire en sera donc la thématique clé phare. Et pour ce, différentes initiatives, différents acteurs, actrices, partenaires et parties prenantes de cette dynamique ont été invités à participer à cette émission. Alors, bienvenue à tout le monde et merci d'être avec nous et d'avoir répondu présent donc en vous engageant à participer à ce programme. On va retrouver Jean-Thomas et Anthony pour l'association des Amis de l'Accueil Saint-Martin qu'ils nous présenteront, située pas très loin d'ici à Unieux, Sabrina Merle ainsi que Julien. Qui vont représenter le centre social du Soleil Levant. Merci Sabrina d'ailleurs, directrice du centre social, de nous accueillir. Vous êtes située ici, Chemin des Combes, à Firminy. On va parler de votre activité, de vos activités, et surtout de celui concernant le jardin partagé voisin que l'on voit ici sous nos yeux. Nous retrouvons également David Farah, qui est vice-président de Saint-Étienne Métropole, chargé de l'agriculture, de la transition agricole et alimentaire. Et puis également Nabil Mazari, qui est 7e adjoint en charge de la politique de la ville sur cette commune même de Firminy. Et enfin, Siam Labiche, avec qui nous allons commencer ce programme. Vous êtes en charge de la politique de la ville à Saint-Étienne Métropole. Alors, on va commencer avec vous, Siam Labiche, parce que, si je reprends mes notes, c'était au mois de mars dernier, précisément, le Conseil métropolitain approuvait le 28 mars dernier ce nouveau contrat de ville, engagement quartier 2030. Il a été signé tout récemment, c'était le 10 juillet dernier. Alors, refaire peut-être un point sur ce nouveau contrat de ville, engagement quartier 2030, qui est donc désormais engagé sur l'agglomération.
Oui, c'est ça. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons travaillé effectivement sur un nouveau contrat de ville qui est le fruit d'un travail partenarial important qui a été produit, comme vous l'avez dit, depuis maintenant plus d'un an avec les différents acteurs du territoire et qui vise deux choses, l'amélioration de la qualité de vie des habitants, mais également la revitalisation de nos territoires urbains sur des territoires clairement identifiés où on a des fragilités, des inégalités sociales et urbaines importantes incrustées depuis maintenant de nombreuses années. Ce contrat de ville concerne 11 communes, 32 quartiers, donc ce qui est important, 80 000 habitants sur les 400 000 concernés par, sur le territoire de Saint-Étienne.
Mais j'ai vu que ça représentait 20% de la population métropolitaine, c'est énorme.
Tout à fait, 20% de la population métropolitaine répartie sur 11 communes, donc c'est important et c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé sur un contrat qui se veut à la fois ambitieux, mais aussi qui apporte des solutions concrètes pour le quotidien des habitants et pour la revitalisation de nos quartiers. Donc ce contrat de ville, comme je vous l'ai dit, c'est pratiquement 600 personnes qui ont contribué à l'écrire, que ce soit sur le territoire de l'Ondaine, sur le Gier, mais également à Saint-Étienne et sa périphérie, et qui a produit un document cadre qui retraduit notre volonté commune de faire avancer les choses et de permettre à ce que les habitants où qu'ils se trouvent se sentent bien. Ce contrat de ville, il est décliné autour de quatre axes. Le premier, c'est sur l'axe emploi, parce que si on veut que ces territoires aillent dans le positif, il faut permettre aux habitants de retrouver de la qualité de vie. Et retrouver de la qualité de vie, c'est également augmenter son revenu. Et pour augmenter son revenu, l'un des leviers, eh bien, c'est de pouvoir retrouver un emploi qui corresponde également au projet, au parcours de vie des habitants. Donc nous allons être vraiment offensifs sur la partie de l'emploi avec l'État et les communes, les acteurs, le monde économique concerné sur ces sujets. On a un second défi qui vise à garantir davantage l'accès aux droits et à lutter contre toutes les formes d'inégalité, qu'elles soient éducatives, culturelles et sportives sur ces territoires. Donc aller encore plus loin que ce que nous avons initié en 2015, parce que ce nouveau contrat de ville s'inscrit dans la continuité de celui que nous avions construit en 2015. Un troisième défi qui concerne l'amélioration continue du cadre de vie des quartiers, en amplifiant la rénovation de l'habitat pour offrir des logements qui soient plus dignes, accessibles et performants pour tous, en luttant notamment contre la précarité énergétique. Et lutter contre la précarité énergétique, eh bien, ça permet de baisser la facture et donc d'augmenter le pouvoir d'achat de nos habitants. Et puis le dernier axe, le dernier défi qui a été travaillé avec les habitants, les associations et l'ensemble des acteurs et qui est traduit dans ce contrat de ville, c'est de renforcer la coopération entre les institutions et les acteurs pour promouvoir la participation et la capacité d'agir des habitants. C'est un levier très fort qui a été très fortement demandé par ceux qui ont contribué à l'écriture de ce contrat de ville, en garantissant aussi la stabilité, la pérennité d'un certain nombre de structures de proximité comme le centre social dans lequel on se trouve aujourd'hui.
Alors pour reprendre l'enjeu peut-être plus national, ce sont 1362 quartiers qui forment cette nouvelle génération de quartiers prioritaires de la politique de la ville, avec finalement une sorte de aussi géoréférencement qui a été un petit peu modifié, puisqu'au niveau national, on voit 960 quartiers maintenus qui voient donc leur périmètre aussi évoluer, 111 nouveaux quartiers entrants, 40 quartiers sortants, avec peut-être aussi indicateurs qui ont peut-être été modifiés. Alors qu'est-ce qu'il en est au niveau de la métropole? Vous avez indiqué 11 communes, 32 quartiers prioritaires. Est-ce qu'il y a en effet des périmètres qui ont évolué, des nouveaux quartiers entrants, et on va, la question est biaisée mais l'illustrer, ici même à Firminy, et des quartiers sortants également? Enfin, comment les choses ont évolué, je dirais aussi géographiquement ou en termes d'autres indicateurs de cette réalité socio-économique?
C'est un travail très minutieux que nous avons réalisé avec les services de l'État, Saint-Étienne Métropole et les communes concernées, avec notamment aussi les bailleurs sociaux pour avoir les bons indicateurs pour pouvoir bien déterminer les périmètres concernés. Et nous avons voulu conserver un certain nombre de territoires qui avaient encore un certain nombre de fragilités sur lesquelles il fallait qu'on poursuive le travail. Donc on a gardé les périmètres que nous avions la fois d'avant. Certains quartiers ont vu leur périmètre s'élargir pour notamment y intégrer un certain nombre d'équipements pour qu'ils puissent bénéficier de rénovations urbaines et d'aides de l'État. Je pense notamment aux centres sociaux, aux équipements éducatifs, les écoles, les équipements culturels, les équipements sportifs. Et nous avons défendu le fait de faire rentrer 5 nouveaux quartiers qui étaient en fragilité déjà maintenant depuis de nombreuses années, mais qui étaient soit sortis de la géographie prioritaire, soit qui n'étaient pas rentrés dans la géographie prioritaire parce que les éléments qui avaient été donnés à l'époque n'étaient peut-être pas assez conséquents. Et donc, ces 5 nouveaux quartiers qui ont rejoint le périmètre qui est existant. Et c'est notamment la ville de Firminy qui voit 2 quartiers prioritaires s'ajouter à la politique de la ville, et 3 de Saint-Étienne avec le quartier de Montieu, Solor et le troisième, Montaud. Merci Grand Clos.
D'accord. L'autre question qui se pose, c'est en termes de moyens aussi pour réaliser ces engagements sur ce prochain contrat de ville courant jusqu'à 2030. Quelle est l'enveloppe peut-être qui va pouvoir être mobilisée sur Métropole et l'ensemble de ces quartiers?
L'État a pratiquement doublé son enveloppe. Et Saint-Étienne Métropole a doublé également son enveloppe à destination des associations pour être aux côtés aussi des associations et être encore plus offensif sur, comme je vous l'ai dit, les questions sociales, économiques liées à la solidarité ou sur des projets d'environnement. Donc nous avons doublé cette enveloppe et nous maintenons l'enveloppe qui concerne notamment la prévention spécialisée, qui est une enveloppe par an de 3,5 millions, qui permet de financer des éducateurs de la prévention spécialisée pour travailler avec la jeunesse.
Chaque année, donc environ 5 millions d'euros en faveur des quartiers prioritaires sur Saint-Étienne Métropole. Un contrat de ville Engagement quartier 2030 signé le 10 juillet avec l'ensemble des partenaires. Vous l'avez dit, 11 communes, 32 quartiers. Alors ces communes, André-du-Boutéon, Le Chambon-Feugerolles, La Grand-Croix, La Ricamarie, Rive-de-Gier, Roche-la-Molière, Saint-Chamond, Saint-Étienne, Saint-Paul-en-Jarret, Unieux et donc Firminy qui rejoint ce contrat de ville. Alors Nabil Nazari est avec nous pour représenter la commune de Firminy précisément. Alors quelques petits changements en termes de géographie prioritaire. Alors d'après les... En effet, c'est avoir consulté pour ma part le dossier de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, sont deux quartiers qui semblent réintégrer la géographie prioritaire dans le cadre du contrat de ville, Laïa Bama et Firminy Vert. Donc vous confirmez la chose, j'imagine. Et comment se fait-il que ces quartiers réintègrent finalement le contrat de ville et quelle en était peut-être l'attente et les enjeux pour la commune ?
Bonjour à tous. Bonjour. Et à toutes. Donc effectivement, c'est ces deux quartiers qui réintègrent les quartiers prioritaires de la ville. Comme a dit Madame Labiche, peut-être qu'à l'époque, les documents ou les statistiques n'étaient pas assez conséquents pour qu'ils réintègrent ou qu'ils restent en quartier prioritaire de la ville, parce qu'ils y étaient déjà. Et donc pour nous, j'ai envie de dire, je voulais dire, c'est une chance. Mais en fait, ce n'est pas une chance, c'est vraiment une évidence que ces deux quartiers sont quartiers prioritaires de la ville, parce qu'on a d'énormes difficultés en termes d'habitat, de drogue, etc., de deal. Il faut dire les choses, il faut mettre les mots sur les problématiques. Et donc forcément, c'est vraiment pas une aubaine. C'est vraiment c'est tout à fait normal que ces deux quartiers soient prioritaires à la ville. Pour nous donner plus de moyens, depuis notre mandat, depuis 2020 qu'on a été élu, on a fait beaucoup de choses, mais pas nécessairement... en ayant les moyens de certaines villes qui sont voisines, comme le Chambon-Feugerolles ou la Ricamarie, qui, eux, connaissent aussi les mêmes problématiques que nous sur leur quartier prioritaire de la ville.
C'est-à-dire que vous ne faisiez pas partie du contrat de ville précédent ?
Non.
Et c'était malgré tout chose dans le passé ? Ouais. Et depuis quand, du coup, vous n'étiez plus en géographie prioritaire ?
Depuis la dernière, dire, depuis 2018, il me semble.
D'accord.
C'est ça ? Si je ne me trompe pas, c'est ça ?
Non, non.
2014. Donc ça fait 10 ans qu'on n'est plus en quartier prioritaire de la ville.
D'accord. Alors vous réintégrez via ces deux quartiers le contrat de ville. Avec pour vous quels peut-être objectifs, axes, missions fixés ?
On avait déjà fixé sur notre projet électoral des missions, des objectifs. Forcément, on n'avait pas les moyens à côté. Donc on a déjà commencé à travailler. Et ce qu'on voudrait mettre, nous, aujourd'hui, c'est accélérer sur les projets, sur les objectifs, mais pas mettre des pansements sur des quartiers. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a des moyens qu'on va mettre des choses assez rapidement, des structures, des éducateurs, etc. C'est vraiment co-construire aussi avec les habitants ce que les habitants ont besoin et vraiment co-construire pour que ça dure dans le temps. Et avec le maire Julien et l'équipe municipale, l'équipe municipale, de mettre des pansements, de mettre des city-stades, de faire des choses qui sont pas en adéquation, balancer les moyens que nous donne la métropole et les services de l'État pour dire au fait. Aujourd'hui, on prend le temps d'interagir aussi avec les habitants et de mettre vraiment des choses en place qui puissent durer dans le temps et être fonctionnelles au maximum.
S'il fallait un petit peu faire un état des lieux ou tenter de décrire en quelques mots précisément ces deux quartiers en retour dans le contrat de ville, donc Laïa Bama et Firminy Vert, nous, en ce qui concerne Dio, Radio Ondaine connaît très bien sûr la commune étant basée ici sur l'Ondaine. En ce qui concerne Radio Dio basée sur Saint-Étienne, on connaît moins la ville et ses quartiers. Quelle est un petit peu la situation précisément sur ces deux secteurs cibles ?
La plus grosse problématique qu'il y a sur les deux plus grosses problématiques, c'est l'habitant qui devient de plus en plus vétuste, forcément. La sécurité, et bien sûr, comme dans tous les quartiers, je pense, de métropole, le deal de drogue.
La sécurité.
Voilà.
D'accord. J'ai pu voir en revanche sur le site de Saint-Étienne Métropole, quant à la signature de ce contrat de ville, que deux autres quartiers semblaient être concernés, Chemin du Béal et Malafolie.
Ouais, exactement. La Malafolie, c'est frontalier avec le Chambon-Feugerolles.
D'accord.
Vous savez, et le Chemin du Béal, c'est par ici. Voilà,
pas très loin de ce secteur.
Voilà, exactement.
D'accord. Alors précisément, on est ici au Centre social du Levant. Vous n'intégrez pas pleinement finalement la géographie quartier prioritaire. En revanche, ce qu'on disait tout à l'heure en termes d'orthographie et géoréférencement, il y a eu quelques petites modifications. Nous ne sommes pas en QPV, quartier politique de la ville, mais nous sommes en
quartier en veille.
Exactement. Est-ce que vous pouvez aussi peut-être préciser un petit peu les nuances entre ces différentes situations?
Techniquement, peut-être que Madame
la ministre pourra vous compléter.
Voilà. Hein. Ouais, donc moi, je vais vous parler surtout avec des moyens. On aura moins de moyens au niveau quartier en veille, quartier en politique de la ville. Et peut-être que je vais laisser la main peut-être à Madame Labiche.
Oui, c'est ça, quartier politique de la ville. L'État intervient aux côtés de la métropole, des collectivités et des bailleurs de façon très conséquente. Quand on est en veille active, c'est essentiellement Saint-Étienne Métropole qui est aux côtés de la collectivité pour intervenir sur des sujets sociaux ou urbains. Mais effectivement, c'est moins conséquent que lorsqu'on est inscrit en quartier politique de la ville. Puis la différence, c'est aussi que le quartier politique de la ville, c'est une décision qui vient de la NCT, donc de l'État, travailler avec les collectivités Saint-Étienne Métropole. Quartier en veille active, c'est travailler à l'échelle locale avec des moyens effectivement qui sont totalement différents. Et puis quartier veille active aussi, c'est pourquoi les avoir inscrits en tant que métropole, c'est pour éviter que demain ils tombent aussi en quartier politique de la ville. C'est pouvoir anticiper sur les fragilités pour éviter que demain les habitants comme le territoire soient en grosse difficulté. Donc c'est vraiment une sorte de prévention pour éviter qu'on se retrouve sur des quartiers en très grosse fragilité.
Alors vous parlez de prévention, en même temps, vu le constat et les chiffres donnés, comment faire bilan malgré tout ce travail réalisé depuis toutes ces années, quand on voit la géographie prioritaire élargie finalement aussi aujourd'hui. Est-ce que précisément, vous l'avez dit, hein, c'est combien? 32 quartiers, 11 communes. Est-ce qu'au contraire, les choses ne s'améliorent pas véritablement? Comment il faut apprécier, évaluer la chose?
Alors c'est un discours qu'on entend souvent, notamment sur des chaînes nationales ou de politique à l'échelle nationale, qui dénonce la politique de la ville en disant que la politique de la ville ne sert à rien, qu'on y injecte des millions, des milliards depuis des années, et qu'au final, on a toujours les mêmes quartiers qui reviennent en politique de la ville. Très concrètement, la politique de la ville a beaucoup apporté aux habitants et au territoire depuis son existence, depuis maintenant pratiquement plus de 20 ans. Et heureusement qu'il y a eu la politique de la ville, c'est-à-dire donner plus à ceux qui ont moins pour pouvoir à minima retrouver un peu d'équité. Sur ces territoires, il faut savoir que les habitants sont très très attachés. Lorsqu'on est né dans des quartiers prioritaires, on souhaite y rester. C'est très difficile effectivement de garantir de la mixité quand on a de la difficulté à faire bouger les populations. Et puis bien entendre et comprendre qu'il y a l'autre versant qui est peut-être moins visible, qu'on inaugure un petit peu moins, c'est toutes les réussites sociales qu'il y a pu avoir aussi sur ces territoires. Et souvent, on a des jeunes, des familles qui, sur ces territoires, ont réussi, ont pu s'inscrire dans un parcours résidentiel aussi conséquent, soit sur le territoire, soit ailleurs, et qui parfois sortent de ces territoires une fois qu'ils ont réussi professionnellement et qui veulent, qui aspirent à autre chose, petite maison avec Red Jardin et partir sur une autre commune parce que voilà, ça fait partie des choses de la vie, ils partent. Il y a beaucoup de réussites sur ces territoires, on les voit peut-être pas, et quand ces personnes qui réussissent partent, ils sont remplacés par d'autres populations qui sont plus en difficulté, mais ensuite qui s'inscrivent dans un parcours de réussite. Et effectivement, ces territoires que l'on peut appeler des territoires dortoirs accueillent effectivement de la fragilité, mais ensuite derrière produisent de la réussite qui n'est peut-être pas assez visible. Sur l'aspect urbain, c'est plus visible, parce que quand on inaugure un centre social, quand on inaugure un nouvel immeuble, quand on inaugure une gendarmerie ou une école, c'est visible. Quand on ne peut pas inaugurer une réussite sociale ou une personne qui a pu passer de « je ne trouve pas d'emploi » à « créer ma propre entreprise », ça ne s'inaugure pas, mais ça existe.
Très bien, merci de cet éclairage, à la fois Nabil Mazari et Siam Labi, sur cette question aussi donc du contrat de ville engagement quartier 2030 qui vient d'être engagé. On va resserrer un peu le sujet, mais dans des questions finalement associées, avec David Farah qui est également présent, tout à fait concerné aussi par la question, parce que vous êtes certes vice-président de cette métropole chargé de l'agriculture, de la transition agricole et alimentaire, mais également maire du Chambon-Feugerolles, donc concerné aussi par cette nouvelle géographie prioritaire. Et donc dans ces questions que l'on peut aussi souvent associer, donc de logement, d'éducation, de services publics, c'est la question alimentaire là, qui va nous occuper, puisqu'il y a tout juste une semaine, C'était le 16 juillet dernier, ici même, donc c'est une sorte de finalement redite de la chose. Vous présentiez deux structures lauréates d'un appel à projet de Saint-Étienne Métropole, Solidarité Alimentaire, à Firminy et à Unieux, dont on va parler prochainement dans ce programme. C'est en 2021 que vous avez engagé cette démarche de projet alimentaire, de PAT, projet alimentaire territorial. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que vous pouvez nous représenter précisément ce projet, cette politique en la matière, David Farah ?
Oui, merci beaucoup. Donc oui, très rapidement sur le projet alimentaire territorial, c'est une démarche, vous l'avez dit, on a démarré en 2021. Le but, c'était d'associer sur la métropole tous les acteurs de l'alimentation, de la production, donc les agriculteurs, les consommateurs, mais aussi toutes les structures qui intervenaient dans la sensibilisation au bien manger, toutes ces questions-là, la gestion, on avait également la gestion de l'eau, la gestion des déchets. Je vais très vite. Et il y a eu toute une partie, donc Siam Labiche l'a évoqué, qui est, on a environ entre 18 et 20% de personnes qui sont en insécurité alimentaire, c'est-à-dire qui n'arrivent pas forcément à survenir à leurs besoins alimentaires de qualité sur la métropole. C'est une enquête qu'on avait conduite au démarrage du projet alimentaire territorial. Et donc la volonté, ça a été d'avoir un axe autour de l'accès, je vais résumer, au bien manger pour tous. Donc c'est cet axe et on a réfléchi avec Siam, on a travaillé avec d'autres vice-présidents de la métropole, je tiens à le dire, sur d'autres thématiques, mais sur celle-ci, on a voulu travailler en commun. Pour pas justement, et les structures pourront le dire, qu'on se retrouve avec une multitude d'appels à projets. Un appel à projet dans le cadre du pacte des solidarités porté par Siam Labiche, un appel à projet dans le cadre du projet alimentaire territorial sur ma délégation, sur parfois des sujets qui sont un peu les mêmes et qui demandent une grande énergie aux associations, aux structures pour répondre. Ça, il faut le savoir, c'est des choses qui sont remontées, enfin qui remontent aussi chez Siam, de dire ça nous prend beaucoup d'énergie parfois pour répondre à tous ces appels. Donc là, on a dit, on essaye nous de se mettre d'accord au début. On est un peu parti dans l'inconnu, faut bien se le dire, quand on a monté ça en 2022-2023, on se dit, est-ce que les structures en face vont répondre, est-ce que ça va correspondre ? Et en fait, oui, je pense qu'on était bien dans les besoins, dans cette réflexion autour du mieux manger, du bien manger, de la non-culpabilisation. On n'est pas là, et je pense que les projets le montreront, pour dire, vous avez fait mal pendant 25 ans, vous n'avez rien compris. Je pense que c'est beaucoup de choses qui sont dans le contrat de ville aussi. Mais plutôt, oui, on est là, on peut vous donner un coup de main, vous avez des projets, peut-être que peut vous aider à les finaliser, à les faire émerger. C'est ça le but de l'appel à projet, à les faire démarrer. Après, c'est à vous de les faire vivre. Mais on est là au moins pour qu'ils puissent démarrer. Et on a vu qu'il y avait un grand foisonnement. On a eu des dizaines de candidatures. On en est à 25 projets, je crois, aujourd'hui, qui ont été lauréats sur les trois premiers appels. On est à plus de 400 000 euros qui ont été affectés à ces structures. Et on a encore des dizaines de projets qui arrivent. On a un appel en cours et sans doute le reconduirons-nous jusqu'à la fin du mandat au vu du succès. Dire aussi que là-dessus, on a eu un gros travail avec les services de l'État, notamment la DETS, hein, Direction départementale d'emploi, de travail et des solidarités, pour aussi dire, voilà, ils sont dans le pacte de solidarité, il y a une partie des fonds qui vient de l'État, de dire, voilà, on a ce guichet commun, on a ce travail en commun, on n'use pas les acteurs, et ça j'y tiens, on n'use pas les acteurs de terrain avec 150 réunions, 150 appels à projets, où parfois on n'arrive pas à monter. Et on s'est lancé là-dedans. Et on a répondu. Alors, vous le voyez aujourd'hui, on a deux structures très différentes. Les Amis de l'Accueil Saint-Martin, on a le Centre Social du Soleil Levant, qui a une des plus belles vues des centres sociaux de l'Andenne, d'ailleurs, parce que vous voyez le Chambon-Feugerolles.
Et on voit les collines environnantes.
Et c'est magnifique.
Puis sur la ville.
Oui, magnifique. Une magnifique
et le jardin.
Ville. Et une magnifique ville. Qui sont des structures très différentes. On a travaillé aussi, par exemple, avec les Restos du Cœur. On a travaillé avec le Crous pour les étudiants. On a travaillé avec les jardins de Valériane, avec des centres sociaux sur Saint-Étienne, avec des structures sur le Gier, avec des épiceries régulières Andrézieux. Enfin voilà, des choses très variées, très différentes, des projets qui peuvent se ressembler ou pas. Là, les deux projets ne sont pas, sont pas les mêmes, mais qui parfois ils peuvent être complémentaires. Parfois, on peut retrouver aussi, on le voit, hein, les mêmes bénévoles qui sont très engagés dans certaines structures. Et donc voilà, c'était ça le but de l'appel à projet. On trouve que ça a bien marché. On a voulu faire... On va se jeter des fleurs, hein, c'est les vacances. On a voulu faire pas trop technocratique, c'est-à-dire que l'appel à projet, il se comprend quand on le lit à peu près. Enfin, je crois, c'est ce que les gens nous ont dit. On peut arriver à y remettre ses projets, parce que parfois, quand on lit un appel à projet, c'est limite du français quand même. Hein.
C'est technique.
C'est technique. C'est peut-être. Oui, moi, j'irais jusqu'à technocratique, on a le droit. Il n'y a que celui qui l'écrit qui le comprend. Mais voilà, donc on a voulu faire ça. Ça a permis de répondre, aussi donner la chance à pas dire il y a un coup près, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une seule session, où vous avez ou vous n'avez pas, et c'est terminé. Ça aussi, c'est une vraie insécurité pour les structures de dire si j'ai raté mars, 2023, c'est fini, je l'aurai plus. Là, il y a des projets qu'on a retravaillés, qui ont candidaté à la première session, à qui on a dit non, le projet, il cale pas tout à fait, vous êtes peut-être pas tout à fait mieux, retravaillez-le, on viendra à la deuxième session. Des gens qui sont passés à la deuxième ou à la troisième, et ma mine de rien, on enlève aussi de l'insécurité quelque part en faisant ça. Et je pense que c'est important.
Et bon, alors, je poserai la question de savoir comment dépasser la dimension du projet. Quand on engage une politique en la matière, qui n'est pas chose simple, la question alimentaire, c'est une question sensible. Et effectivement, donner l'accès à une alimentation saine, durable, choisie, locale, la question est très vaste. Comment on s'empare de cette question-là pour, au-delà de soutenir un projet, pouvoir effectivement être force de proposition d'une alimentation, en effet, de qualité aussi, mais pour tous, au-delà des projets ou micro-projets qui peuvent s'engager.
Mais je pense que les micro-projets, ils font un tout aussi. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qu'on soutient qui travaillent sur ces projets. Alors, par exemple, une épicerie solidaire, si on arrive à lui, Andrézieux, ça leur a permis d'avoir plus de produits frais dans leur épicerie solidaire. Voilà, ça leur permet aussi d'offrir à leurs adhérents des produits de meilleure qualité. On ne va pas les contrôler tous les jours. Moi, je ne peux pas savoir si la personne qui est adhérente à l'épicerie solidaire, elle va bien manger des courgettes, des tomates quand c'est la saison. C'est ce que j'ai dit aussi. Il y a quelque part où il y a une prise en main aussi de ces populations. On n'est pas face à des gens parce qu'ils sont en quartier politique de la ville ou veille active qui ne savent pas cuisiner. Moi, il y en a, mais il y en a dans des quartiers qui ne sont pas du tout en politique de la ville qui ne savent pas cuisiner. Hein. Je peux vous le dire, ça aussi, quand ils font la prise de sang du diabète ou du cholestérol, elle n'est pas forcément meilleure. Mais la problématique, c'est qu'on a les moyens. Et parfois, des gens qui n'ont pas les moyens sont obligés d'acheter d'acheter une alimentation qui n'est pas de qualité et qui n'est pas bonne pour la santé, quelque part. Donc, le but, c'est de dire, vous pouvez y avoir accès, on va vous aider aussi, on a des problèmes aussi d'interculturalité. Parfois, y a des légumes ou des fruits, on arrive dans des quartiers politiques de la ville, on n'est pas forcément originaire de France. Bon, c'est pas les cuisiner, c'est pas parce qu'on, je vais le dire, hein, c'est pas parce qu'on a une problématique, c'est qu'on sait pas faire. Donc, on est plutôt dans cette aide-là, dans cet accompagnement-là, je pense, avec ces projets-là. On a aussi des conventions globales avec des acteurs. On a la Chambre d'agriculture avec laquelle on travaille sur des marchés solidaires aussi, pour que les producteurs viennent offrir viennent vendre des produits de qualité. On a une convention avec l'association VRAC au niveau de Saint-Étienne Métropole. On a une convention aussi avec les Amis du Treuil. On est intégré dans le plan cancer de la ville de Saint-Étienne et dans le contrat local de santé de la métropole. Toutes ces choses-là, elles résonnent. C'est-à-dire, quand on fait une action, elle doit résonner sur d'autres politiques publiques. Elle doit aider. Et puis j'allais dire, le problème du micro-projet, c'est qu'il a une importance aussi parfois dans les, même nous, dans les quartiers politiques de la ville ou pas, on peut avoir des problèmes de mobilité. Si le projet il est super bien, mais qu'il est à Solor, les gens de Firminy, c'est quand même compliqué. On peut dire, moi si j'étais à Solor, ça serait bien. C'est dire aussi, essayons d'essaimer sur tout le territoire. Donc l'intérêt du micro-projet, il est celui-là. Et puis c'est plus facile de s'investir près de chez soi aussi.
Essayons d'essayer. Ça, c'est certain que les micro-projets ont une importance et peuvent donner une impulsion après, aussi à une dynamique. Grandes, hein. Mais s'emparer de cette question, c'était simplement le sens de ma question, qui me semble être vraiment très complexe, de à la fois réunir l'ensemble de ces acteurs. On le sait aussi, notre territoire est un territoire rural aussi en grande partie. Il n'y a pas que la ville et les quartiers populaires. Mais précisément, comment travailler avec les producteurs locaux, les circuits courts, et pour que ce soit effectivement le plus accessible à tous et toutes, effectivement. Et c'est difficile parfois d'engager peut-être ce travail, ce chantier.
C'est compliqué, mais ça, j'ai un mot de fond fermier, parce qu'on vient de les soutenir. Il y a aussi un autre appel à projet de direction des communes sur la restauration collective, ce que dit Siam. Parce que, en plus, tu m'as soufflé, c'est parfait. On soutient aussi les communes sur l'aménagement de leurs équipements. Typiquement, Saint-Jean-Bonnefonds, La Talaudière et Sorbier ont monté une nouvelle cuisine centrale avec des produits locaux. Saint-Étienne-Métropole a fortement aidé au niveau investissement, puisqu'il faut être équipé. Sur Firminy également, on vient de soutenir un projet autour du jardin municipal pour que ce jardin puisse fournir mieux les équipements de Firminy. Donc ça aussi, le repas de midi des enfants ou des personnes âgées en maison de retraite ou en EHPAD, des choses comme
pour
ça.
Pour être clair, au-delà du soutien, comment fonctionnent quelles sont ces initiatives? C'est de la restauration locale, bio, oui. À 100%,
Alors ça aussi, c'est très dangereux.
Quelle est la typologie?
Le 0 ou 100%, je vais vous le dire, est extrêmement dangereux. C'est-à-dire de dire à quelqu'un, vous aviez 15% de bio, si vous passez pas à 100, vous n'êtes pas, mais il va rester à 15. Hein. Il va dire, moi, je ne vais pas faire le saut. Ça, voilà, mais c'est l'accompagner. Et après, on voit que ça monte régulièrement. Donc, c'est plutôt dire, on vous accompagne pour pouvoir le faire. Typiquement, sur Saint-Germain-de-Fonds, ils n'avaient pas de cuisine centrale. Firminy, il n'y avait pas d'équipement pour conserver les légumes. Je vais dire, aujourd'hui, c'est la saison des courgettes. Les écoles de Firminy sont un peu vides. Donc si vous n'avez pas quelque chose pour les conserver, ils ne vont pas pouvoir les servir après. Donc c'est plutôt d'aider, je pense. Moi, je l'ai dit aussi, il y a une histoire politique des communes. Un maire qui va vouloir servir de l'ultra transformé, parce qu'il pense que c'est moins cher, on peut bien faire tous les appels à projets qu'on veut. ça l'aidera pas, mais on est plutôt sur des communes qui sont volontaires. Moi, j'ai pas rencontré un maire dans les 53 qui dit j'ai envie de donner de la mauvaise nourriture aux enfants, aux personnes âgées. Et je caricature pas, mais plutôt de dire, dans les années 80, 90, début 2000, on était sur le coup, on avait des cuisines, on était là pour préparer des produits qui étaient déjà transformés. Mais quand vous arrivez avec des légumes crus, vous pouvez pas les traiter, quoi. Donc c'est plutôt ça, de dire on vous redonne les moyens, on fait des formations aussi des agents des cantines et des agents de service, ce qui est très important. Là aussi, je suis comme tout à l'heure, on n'est pas dans la culpabilisation. Quelqu'un qui, pendant 25 ans, a une cuisine où il fallait qu'il se serve du surgelé parce que la cuisine est faite comme ça, c'est pas lui, hein. C'est que l'équipement était comme ça. Donc il faut le former, il faut l'accompagner. Et ça, il y a un gros travail de formation des agents des communes qui est fait.
Très bien. Alors, 25 projets financés par Saint-Étienne Métropole dans le cadre de ce projet alimentaire territorial qui, j'imagine, parce qu'il court jusqu'à 2026, donc est encore... va peut-être, j'imagine, sans doute être renouvelé.
Oui, il court jusqu'en 2024-2025, la première phase, et on est candidat à la phase 2 qui devrait être actée, avec les incertitudes au niveau de l'État, mais qui devrait être actée en 2025.
D'accord. Alors avec trois objectifs, merci Nabil Mazari qui doit quitter le plateau. Je vous remercie. Accessibilité alimentaire, prise en compte de produits locaux ou bio, sensibilisation des publics à une alimentation saine. Et alors deux projets ici dans l'Ondain qui ont été soutenus et qui ont bénéficié, si je ne me trompe, de soutien à hauteur de 6 200 et 35 000 euros de subventions pour ces deux projets dont nous allons parler, avec tout d'abord le Centre social du Soleil Levant, Sabrina Merle et Dominique Combette. Qui sont avec nous. Alors précisément, peut-être tout simplement pour faire transition, sans vilain jeu de mots, alimentaire, comment vous avez rejoint ce projet ? C'est appelé un projet en tout cas.
Eh ben, bonjour à toutes et à tous. On a rejoint ce projet tout simplement par l'intermédiaire de l'appel à projet. Moi, en tant que directrice du Centre social Soleil Levant, je participe à des réunions, on va dire, avec des partenaires, qu'ils soient financiers ou techniques, afin de pouvoir travailler sur des questions communes. Donc j'avais entendu parler de cet appel à projet-là. Nous y avons répondu aussi avec d'autres centres sociaux de la Fédération des centres sociaux 42-43. Nous sommes plusieurs à vouloir émarger aussi sur cette thématique-là. Tout simplement, nous, au Soleil Levant, ça fait plusieurs années qu'on travaille la question alimentaire de manière générale, du bien-être et puis de la question du lien social et de la solidarité. Surtout post-Covid, on a beaucoup travaillé nous pendant le Covid sur tout ce qui était la question alimentaire, l'approvisionnement, et c'est un petit peu ce point de départ là. On faisait déjà des repas partagés, des repas intergénérationnels où on sensibilisait du coup les habitants du quartier et de manière générale de la ville à mieux manger, à s'alimenter de manière différente ou en tout cas à se poser des questions. On ne révolutionne pas leur alimentation de manière générale. Je dis souvent qu'on sème des petites graines, sans mauvais jeu de mots, pour pouvoir évoluer dans ses comportements alimentaires. L'évolution des comportements alimentaires, c'est comme beaucoup de choses, c'est très compliqué. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, même si on en a la volonté, on n'en a peut-être pas la possibilité, l'accès, etc. Donc pour aller jusqu'au bout de notre démarche, au-delà de la sensibilisation, on s'est posé la question, notre quartier, il y a peu de moyens de s'approvisionner. On n'a pas d'épicerie, on a très peu de magasins en soi qui proposent des produits bio, locaux, ou équitables ou en vrac. Donc pour aller jusqu'au bout de notre démarche, avec certains habitants du quartier, on a créé une commission alimentation qui a pu se pencher sur la question de comment on peut se nourrir sur le quartier, comment on peut s'approvisionner. Donc plusieurs projets sont nés. Faut savoir que nous, en tant que centre social, on dépose auprès de la CAF pour avoir des financements un projet social. Avec des axes que nous défendons pendant 4 ans, dont un des axes qui est le faire autrement. Et dans le faire autrement, il y a cette question de l'alimentation, de comment on s'approvisionne. Donc tout simplement, avec cette commission alimentation d'habitants du quartier et d'adhérents, on a pu mettre en place plusieurs projets, notamment Monsieur Farah en parlait tout à l'heure, on a un partenariat avec l'association VRAC de Saint-Étienne qui nous permet de proposer des produits VRAC une demi-journée par mois aux habitants du quartier de la ville de Firminy. Il faut savoir qu'on propose des produits en fait à prix coûtant, voire même beaucoup moins cher pour en fait faire bénéficier aux habitants d'une alimentation saine, de qualité, à moindre coût. Parce qu'effectivement, cette question du coût, elle est aussi importante. C'est-à-dire qu'on peut avoir la volonté de s'approvisionner ou on peut avoir l'idée de changer son alimentation, mais si on n'en a pas les moyens financiers, c'est compliqué. On a aussi un partenariat avec les Jardins de Valériane, où une semaine sur deux, on propose des paniers à moindre coût avec donc les Jardins de Valériane qui font partie du réseau du Jardin de Cocagne et qui sont une association.
Jardin d'insertion, en fait.
Exactement. Un jardin d'insertion qui propose donc des produits bio. Et donc, les habitants du quartier peuvent bénéficier de paniers vraiment pas chers. Et pour nourrir une famille entière, c'est largement suffisant. Et donc, le dernier volet, celui qui nous intéresse là peut-être aujourd'hui, c'est le jardin partagé que nous avons créé depuis à peu près avril-mai. Alors, il n'est pas né comme ça. C'est vrai que c'est un projet qu'on avait envie de développer depuis plusieurs années, mais voilà, qui a mis du temps à pouvoir se mettre en place, notamment voilà, parce qu'il fallait prendre le temps aussi de mobiliser des habitants et d'avoir un groupe d'habitants. Et puis, il y avait des moyens financiers. Donc, en fait, pour nous, le PAET, ça a été vraiment une opportunité qui nous a permis vraiment de démarrer ce projet. Voilà.
Alors, précisément, je crois qu'il y a des personnes bénévoles ici, hein, du jardin.
Alors, on a Dominique Combette, voilà, qui est jardinière, du coup, qui s'occupe du jardin. Philippe aussi, Viala. Et Julien Mounier, qui est là aussi, qui, par ailleurs, Julien Mounier et Philippe Viala sont aussi administrateurs du centre social, mais sont aussi jardiniers. Il faut savoir que ce jardin, mais je leur laisserai la parole, ils seront peut-être plus à même de répondre, c'est un lieu qui est ouvert à tous. Alors, comme j'expliquais la dernière fois, il y a un petit cadenas, enfin, il n'y a même pas un cadenas. Il y a une...
Non, le jardin est assez ouvert.
Voilà, il est ouvert.
Mais on va peut-être laisser les personnes jardinières nous présenter le projet. Dominique et Julien. Et Philippe, est-ce que vous pourriez nous expliquer ? Alors d'abord, peut-être vous présenter. Vous êtes, vous, habitant, habitante du, donc à la fois ou du quartier ou de la commune ?
Alors, pour moi, Julien Mounier. Oui, j'habite à 200 mètres du centre social. Je suis administrateur depuis maintenant quelques années. Concernant le jardin, il est complètement ouvert. N'importe qui peut passer. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a juste un petit verrou sur la porte, mais pas verrouillé. C'est juste pour fermer. On a mis ça pour les chiens, pour éviter les animaux qui rentrent dans le jardin, pour éviter justement toute dégradation. Mais sinon, toute personne voulant venir peut venir désherber, cueillir. Là, de toute façon, les bénévoles vont se faire un repas juste après avec les légumes. Comme vous avez pu le voir, ils ont déjà bien poussé avec le temps qu'on a.
Oui, un beau jardin. Oui. Et alors, pour vous également, donc c'est Dominique et Philippe.
Oui. Moi, j'interviens plus en tant que trésorier du centre et administrateur du centre social. Alors bon, j'appuie effectivement toute la démarche du jardin partagé. Je suis pas du tout main verte, comme mon père
oui,
le pouvait l'être.
Les jardiniers occasionnels.
Mais oui, j'ai un petit carré de jardin qui est grand comme deux fois la table. Mais donc j'accompagne effectivement cette démarche en tant que bénévole de l'association. Mais je suis bien moins impliqué que Julien et Dominique
donc,
qui sont un peu, je veux dire, présents.
Moi, c'est Dominique. J'habite dans le quartier un petit peu plus haut. Alors, pourquoi j'ai adhéré à ce projet ? Eh ben, parce qu'il était très convivial. Il était pour l'environnement, pour le développement durable. En ce qui concerne le convivial, on s'est retrouvé d'abord un petit groupe de copines, bien évidemment. Et c'est ce qui les incite à venir. Mais également, on a rencontré plein de gens qui venaient au fur et à mesure, des mamans, des papas, avec des enfants. Sincèrement, c'était très très bien. Ensuite, moi, pourquoi je suis venue ? J'ai aussi voulu comprendre comment on pouvait jardiner, avoir des compétences autour de moi, et c'est ce que j'ai trouvé, puisqu'on a été épaulé par un professionnel qui nous a fait le plan du jardin, qui nous a apporté les bonnes graines, et puis qui nous a incité à venir. Et donc, on a pu avoir des moments très conviviaux, puisqu'on a créé, on a labouré, on a enlevé les pierres, on a enlevé l'herbe, on a planté les graines, on a laissé pousser. On a aussi, avec les arrosoirs, on a arrosé. C'était quand même un peu compliqué. Et puis maintenant, on est de plus en plus équipés. Et maintenant, le jardin est vraiment exceptionnel. Il est oui, très, très beau.
Il est bien en place. Les légumes et autres, d'ailleurs, sont très, très beaux. Le jardin, vraiment, est rempli. plein de variétés d'espèces, des plantes aromatiques, des courgettes, des aubergines, des carottes, des haricots. On peut faire le des patates, plein de belles choses. Simplement, au-delà de l'aspect jardinage en tant que tel, quelle est votre attente d'un espace comme celui-ci ? Est-ce que l'idée était de déjà pouvoir vous, je dirais personnellement, avoir accès à au jardin, cultiver sa terre et avoir accès à ses propres légumes de qualité, ou est-ce que pour vous il y a une ambition peut-être autre et plus large ?
Alors moi j'ai un petit jardin chez moi qui est grand comme la table, mais ce que j'ai voulu trouver ici c'était aussi le convivial et puis apprendre à bien faire, parce que moi c'est anarchique ce que je fais. Donc c'était surtout avoir une compétence, trouver une compétence.
À la fois un peu technique, etc.
La technique pour bien faire et puis bien manger.
Et alors,
produire plus.
L'espace porte bien son nom, c'est un jardin tout de même partagé. Donc quand on dit partage, cela se passe concrètement de quelle manière ici ? Parce que là, vous en êtes deux représentants, mais ça, voilà, qui sont parties prenantes ? Comment les habitants, habitantes investissent aussi peut-être le projet, le jardin, sous quelles conditions, etc.
Voilà, c'est qu'effectivement, au départ, le jardin est monté par le centre social avec l'aide des adhérents, donc d'une petite équipe solidaire qui s'est regroupée. Mais on se rend compte maintenant que plusieurs personnes se greffent dessus, et nous, l'objectif au départ, par le conseil d'administration qui a lancé le projet, c'est, je vais dire, de rayonner un petit peu sur le secteur, c'est-à-dire pouvoir avoir un espace où on peut accueillir éventuellement les écoles, les enfants des deux écoles Fayol, Le Mât, qui viennent éventuellement gratter, pouvoir leur expliquer un petit peu comment ça pousse, leur donner, éventuellement, effectivement, être un lien par rapport à des personnes qui veulent pas se lancer dans le jardinage parce que ça leur paraît aller louer un jardin ouvrier quelque part, une parcelle, de pas s'en sortir et de dire voilà, vous pouvez venir là, vous commencez, vous êtes avec l'équipe, vous allez vous faire des amis, vous allez recevoir tous les conseils. Donc un espace de transmission automatiquement. Qui permet effectivement à ces gens-là, donc soit la partie scolaire, soit la partie effectivement publique, autre public, qui souhaiterait, se mettre la main à la pâte. On n'a pas tous la main verte et des fois ça fait un peu peur de se dire, se prendre un petit lopin de terre et voilà.
Alors combien de personnes contribuent aujourd'hui au jardin ?
Alors aujourd'hui, on compte à peu près une vingtaine de familles. Voilà. Mais c'est vrai que on a un groupe sur lequel on échange des messages et on se tient au courant de ce qu'on fait au jardin, parce que je pense qu'il n'y a pas un seul jour où il y a au moins une, deux, trois personnes qui viennent. Voilà, on se le dit entre nous et on sait à peu près où on en est. Mais voilà, il y a une vingtaine de familles qui profitent de ce projet-là. Pour compléter ce que disait Philippe, c'est qu'on a vraiment voulu que ce lieu soit à la fois pédagogique et ludique. Donc effectivement, il sert aux familles. Donc souvent, quand on vient et qu'on a désherbé ou qu'on a arrosé, on repart avec les quelques légumes qu'il peut y avoir. Et puis après, il y a ce repas à midi où effectivement, on profite du moment où il y a une bonne production pour cuisiner tous ensemble ce matin et pouvoir manger un bon repas ensemble à midi. Et comme le disait Dominique, le but, enfin, au-delà du bien-être et de l'alimentation, il y a aussi cette question de la solidarité, du partage. Et quelquefois, au niveau du centre social, on peut avoir des activités qui sont cloisonnées. Là, aujourd'hui, c'est un des projets qui permet vraiment que des bénévoles ou des adhérents ou des jardiniers se retrouvent en même temps sur un même projet et puissent profiter du lien intergénérationnel et de solidarité et de partage.
Et oui, émancipation, solidarité, convivialité, respect sont les mots-clés du centre social du Soleil Levant, qui mène donc ce grand projet autour de la consommation autrement, donc avec le centre social et notamment les trois pôles que vous avez déclinés, développés. Et au-delà de ce jardin partagé, c'est aussi un poulailler partagé, je crois, qui est en projet. Et les poules devraient arriver d'ici peu.
Voilà, c'est ça. Du coup, normalement, voilà, le jardin partagé et poulailler partagé, d'ici septembre-octobre, on devait avoir quelques poules. Et on réfléchit aussi à des lapins. Je ne sais pas où on s'arrêtera, mais en tout cas, de toute façon, c'est des... le collectif qui décide. Donc voilà, on verra le projet là où il peut aboutir.
En tout cas, on souhaite longue continuation à ce projet.
Merci.
Et du jardin, finalement, de la terre à l'assiette, il n'y a qu'un pas. Alors justement, vous parliez de projet ce midi, c'est-à-dire qu'effectivement, ce mercredi 24 juillet, là, aujourd'hui où nous enregistrons cette émission, eh bien, il y a quelques légumes qui vont être retenus du jardin et qui vont passer à la cuisine juste là, voisine. Et il va y avoir un petit chantier cuisine pour un petit repas partagé à midi. Et précisément de cuisine ou de cantine, nous allons parler pour terminer cette émission et ce programme avec l'association Les Amis de l'Accueil Saint-Martin, qui est située à Unieux, donc commune voisine, toujours sur cette vallée de l'Ondaine. Jean-Thomas et Anthony sont avec nous. Présentation précisément de cette association Les Amis de l'Accueil Saint-Martin qui, donc, je le rappelle, hein, a aussi été retenue hein, parmi cet appel à projet lancé par Saint-Étienne Métropole sur le projet alimentaire territorial. Mais avant de parler cantine et repas partagés, l'association Les Amis de l'Accueil Saint-Martin, Jean-Thomas, de quoi s'agit-il?
Alors,
l'association
Les Amis de l'Accueil Saint-Martin gère depuis 2012 3 studios d'hébergement d'urgence à Unieux. Ces studios sont destinés à des personnes en rupture subite de logement, des personnes, des familles, des gens seuls. Ces personnes nous sont adressées par les services sociaux du canton. Donc on est bien sur le canton, hein, on ne s'étend pas au-delà du canton. Ces personnes nous sont adressées par les services sociaux. Ces personnes restent 5 semaines chez nous. On a une équipe de 40 bénévoles qui en binôme de deux, qui en binôme rencontre ces personnes 3 fois par semaine pour leurs besoins un petit peu en matière de lavage, alimentation. Au bout de 5 semaines, les services sociaux orientent ces personnes sur des logements, sur des foyers. Si ce sont des jeunes, ce sont des foyers, donc. Certaines personnes restent plus longtemps. On a eu des familles, par exemple, étrangères, qui étaient à la rue et qui sont restés un peu plus longtemps chez nous. J'en profite là pour vous présenter Anthony, qui est chez nous avec sa famille, avec le papa, la maman et sa sœur, depuis samedi passé. C'est une famille colombienne, mais rapidement, peut-être Anthony, tu veux te présenter?
Bonjour Anthony et bienvenue.
Bonjour à tous, merci pour l'invitation et merci à l'Accueil Saint-Martin pour recevoir à moi et à ma famille dans ce moment et pour partager beaucoup de moments aussi avec la cuisine partagée de l'Accueil Saint-Martin. Je connais beaucoup la nourriture française et aussi on a un échange avec la nourriture et les repas colombiens.
On va parler de l'alimentation juste après, mais juste auparavant, simplement, comment êtes-vous arrivé, Anthony, peut-être ici même, à Unieux, quand on arrive de Colombie, vous êtes arrivé dans l'Ondaine, et comment, à la fois, les conditions d'arriver ici même, et surtout la connexion qui s'est faite, de quelle manière, avec l'association locale?
Ok, je suis maître nageur en Colombie, et j'ai travaillé avec la mairie, j'ai créé une école de natation, et en fait, j'ai fait les mêmes choses que vous, mais d'une façon culturelle et sportive. J'ai aidé à beaucoup de gens et des enfants, j'ai suivi l'initiation sportive en fait de natation, j'étais nageur, et j'ai aidé beaucoup de gens dans vulnérabilité, désolé pour mon français, mais j'essaie de parler de plus en plus. Dans le quartier chaud, j'ai réussi à créer cette école parce qu'il y a beaucoup d'accessibilité à la natation et au sport. Donc, j'ai ramené des gens qui, en fait, c'est la même problématique des dealers, des drogues et tout ça. Donc, je préfère qu'ils partagent un moment des culturels ou des sportifs pour éviter que les gens ils restent à la roue et ils font des autres choses. Donc, j'ai réussi à avoir des problèmes avec des personnes qui travaillent dans ces manières et j'ai revécu des menaces avec ma famille et tout ça et je suis obligé de partir. J'ai essayé de trouver la protection avec la police de mon pays, mais malheureusement, si tu n'es pas une personne très visible dans ton pays, tu ne besoin pas de la vraiment protection, il n'y a pas beaucoup de ressources et j'ai essayé de trouver ça et je suis obligé de partir et je suis ici en France pour des associations et des connexions. Et je suis depuis 16 mois ici et je suis arrivé au Unieux pour des manières de connexion et j'ai connu l'Accueil Saint-Martin pour une école des bénévoles qui s'appellent Françoise Colombette, qui on a connu pour et les bénévoles des professeurs de français, et merci à elle, et autres bénévoles aussi qui s'appellent Chris et de Unio. On a reçu cours de français et des échanges avec beaucoup de personnes. Donc c'est comme ça que nous sommes arrivés et on a fait des échanges et j'ai connu plein de personnes ici.
Donc vous êtes actuellement en demande d'asile ?
Oui, je suis en demande d'asile et dans le process parce que...
La procédure est en cours ?
On a déjà reçu une notice et nous avons fait... sont refusés, mais je ne comprends pas. Il y a plein de familles avec la même situation, homme famille. Et maintenant, on attend des autres réponses pour avoir un titre de séjour. Et là, au QTF, à moi et à ma famille, on arrive au QTF. C'est l'obligation de quitter le territoire français. Et on a réussi à quitter ça parce qu'avec la prof que j'ai et toutes les manières d'expliquer ma situation, dans Lyon, un juge, il a trouvé toutes ces manières. Il a dit non, vous ne pouvez pas retourner à votre pays pour cette situation. Donc, nous sommes dans l'attendant de comment ça va aller après.
Ouais. Pris un petit peu dans ce tourbillon administratif qui n'est pas toujours très simple. Et heureusement, effectivement, vous avez des soutiens aussi d'associations locales. Et alors, en ce qui concerne les amis de l'accueil Saint-Martin, donc Anthony, vous êtes logé depuis samedi dernier.
Une semaine, oui.
Une semaine. Oui. Donc, vous êtes, Anthony, satisfait précisément du logement mis à disposition et comment à la fois vous occupez pour l'instant et avec quelle surtout perspective ? Comment vous voyez la suite en termes aussi de logement et autres ?
Mais j'ai gardé l'espoir de trouver autre logement, mais les logements des les studios, c'est magnifique, j'ai tout ce qu'il faut. Il y a plein de personnes, des bénévoles qui demandent tout le temps comment ça va les choses, ça va mieux, qu'est-ce que vous avez besoin. Donc, beaucoup d'aide, les personnes sont très très gentilles et après je trouve que ça change. Maintenant, pour qu'est-ce que je fais pendant l'attendant, et moi et ma famille, on fait des bénévoles, je fais maintenant infirmière univers. Et je donne des cours de salsa et aussi de la gym douce et dans quelques heures.
Et oui, vous enseignez.
Je peux, ouais. Mon père et ma mère, ils vont faire des bénévoles dans la pizzerie à Firmini à côté de Lidl. Ouais. Et mon frère, il fait des bénévoles à Oasis dans Saint-Just-en-Rambert. Je ne sais pas si vous connaissez.
Jardin d'insertion, jardin de campagne, oui. Comme les jardins Valériana arrivent de Gier, mais à Saint-Just-en-Rambert.
Ouais. Et on attend si après on peut trouver un boulot, un travail.
Oui, mais en tout cas, d'ores et déjà très investi. Oui. Et je vois même là, puisque vous venez de récupérer la tenue officielle, vous êtes déjà aussi très engagé, et notamment au niveau sportif, en étant bénévole sur ces Jeux Olympiques qui vont démarrer à Saint-Etienne, même ce mercredi.
Oui, dans les Jeux Olympiques, c'est en rêve. Je pense que toutes les personnes qui sont sportives, leur rêve, c'est être dans la compétition plus importante au monde, qui sont les Jeux Olympiques. Et maintenant, c'est mon rêve que j'ai déjà réussi à les faire. Pas comme on est sportif, mais j'appartiens et je vais aller à recevoir tous les spectateurs de tous les pays avec une grâce sourire et l'énergie qu'ils ont besoin.
Voilà, donc vous serez notamment à Geoffroy Guichard et les autres épreuves qui vont se dérouler à Saint-Étienne.
Oui.
Et alors comment, pour revenir sur les modalités de fonctionnement, Jean-Thomas, de l'association, juste très rapidement sur les logements, vous fonctionnez de quelle manière ? Par solidarité et contributions et dons divers et variés ?
Oui, simplement pour compléter ce que dit Anthony, actuellement il y a un collectif d'une dizaine de personnes qui se montent pour aider la famille à trouver un logement et à financer ce logement. Logement, les assurances et tout ce qui est... voilà. Et je pense qu'en en septembre ou octobre, cette famille partira de chez nous pour ce nouveau logement. Voilà.
Alors, et on en vient au-delà du logement à notre sujet qui nous importe aussi aujourd'hui. Comment l'association est passée finalement de cette, on va dire, axe fort qu'est le logement au projet cuisine ?
Voilà. On avait un local attenant à nos studios d'hébergement qui était vide. Et là, on a en bureau, on a pensé en faire une salle de convivialité. Ce projet a évolué. Après, c'est devenu une cuisine. Enfin, le projet, c'était une cuisine partagée, puisqu'on avait des appels un petit peu des Restos du Cœur, Secours catholique, Secours populaire, qui s'apercevaient qu'en donnant des légumes à leurs bénéficiaires, ces légumes étaient mal utilisés. Donc le projet est parti un petit peu de ça. Et on a répondu à l'appel à projet de Saint-Étienne Métropole. On a déposé notre candidature qui a été retenue. On était subventionné Et la cuisine a démarré en mars 2024.
Alors quand on dit la cuisine a démarré, il y a une question d'aménagement déjà et d'espace. Oui. Et puis au-delà, comment fonctionne le projet ?
Alors, on a fait appel à plusieurs partenaires, donc les Restos du Cœur, le SCO catholique, SCO populaire, le comité de parrainage, des particuliers qui ont bien voulu animer des cours de cuisine.
D'accord,
donc au départ, on a prévu un cours de cuisine tous les 15 jours. Et puis en fait, on a eu beaucoup de demandes. Et là, une première synthèse qu'on a fait, donc on a fait 11 cours de cuisine depuis le 5 mars.
Ah oui.
Donc des cours de cuisine qui ont été faits par l'accueil Saint-Martin, donc animés par l'accueil Saint-Martin, et puis des cours de cuisine animés par les différents partenaires et par des particuliers aussi. Voilà. Et pour la rentrée, on a d'autres partenaires qui vont nous rejoindre pour la cuisine centrale du lieu, entre autres, le centre social du lieu. On est en contact, on va être en contact avec le centre Soleil Devant, voir comment on peut aussi travailler ensemble.
Et alors précisément, on parlait alors aussi de points de collecte possibles. Où est-ce que vous vous fournissez,
alors,
par exemple ?
Nous, essentiellement à la Biocoop de Firminy. D'accord. Et au Moulin de nos fermes. On a pris contact avec l'Oasis, mais là actuellement, c'est un petit peu difficile. On démarre cette cuisine, donc on va voir en septembre comment on peut mieux prendre des légumes à l'Oasis. Mais enfin, on est en contact régulier avec l'Oasis. Hein.
D'accord. Si j'ai bien saisi, votre inauguration officielle de cette cuisine est prévue le 20 septembre prochain.
Le 20 septembre, voilà. Donc, vous êtes invités à participer, mais on vous enverra une invitation.
Officielle.
On a fait, avec Saint-Étienne Métropole, justement, mardi passé, à la suite du soleil levant, on a fait un cours de cuisine. Les élus ont participé à un cours de cuisine à partir de 11h. Ils ont mis la main à la pâte. Et ensuite, on a eu un repas en commun.
Et alors, voilà. Justement, Anthony, vous avez participé déjà à un atelier cuisine.
Oui.
Peut-être que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé, justement.
Quand nous sommes participés, en fait, on va essayer de démontrer un peu les repas traditionnels de la Colombie. Il arrive trois bénévoles qui cuisinent avec nous. Ils les montrent les façons de cuisiner de nous, comment préparer ça, comment on a fait. Et on a préparé la nourriture colombienne. Et après, les personnes arrivent, on partage et elles goûtent l'apéritif, l'entrée, les repas et les desserts. Et on parle. Et dans ces moments, ils demandent qu'est-ce que c'est, comment vous avez fait ça, et on partage beaucoup de temps avec les personnes.
Oui, c'est du coup aussi une grande ouverture sur le monde, finalement, hein, par aussi la gastronomie. Quelle a été la spécialité et le menu du repas colombien, Anthony ?
Ces jours s'appellent du riz au poulet.
Du riz au poulet.
Donc, en fait, c'est du riz, que tu ajoutes du poivron et des oignons, et je sais pas, c'est du poulet et. C'est pas haché, donc tous les filets, toutes les cuisines, et aussi les platanes verts. Les platanes verts, on les frite, parce qu'ici, ils n'ont pas beaucoup l'habitude de manger ça, mais oui. En grand fait, tu trouves tout, et avec la cuisine là-bas. Et on a goûté un dessert qui s'appelle éponge de pêche. C'est un flan de pêche naturel, et je trouve que c'est magnifique. Et avec guacamole, je ne sais pas si vous connaissez.
Guacamole. Ouais. Tout à fait.
Alors, je m'excuse. Simplement, pour terminer, à chaque repas, on invite ce qu'on appelle une personnalité, c'est-à-dire quelqu'un du monde politique, quelqu'un du monde syndical, un responsable d'association, pour qu'il puisse connaître un petit peu les difficultés.
Les difficultés
que rencontrent ces personnes, et éventuellement les aider au niveau administratif ou pour une suite un petit peu dans leur démarche. Voilà. Mais pour nous, c'est très important, et on axe un petit peu le repas là-dessus. On incite les personnes hébergées à parler avec ces personnes et puis qu'il y ait un contact et pour qu'il y ait une suite, quoi.
Et oui, et sortir de l'aspect uniquement consommation, en effet,
et
sensibiliser surtout aux situations et aux difficultés auxquelles ces familles et personnes font face.
Oui.
Merci beaucoup à vous. Merci à
Merci
tous
à
et
vous.
Toutes d'ailleurs pour Merci. Cette émission. On vous souhaite à la fois bon appétit et puis surtout un bel été, bonne continuation. En vous remerciant encore pour ce programme. Portez-vous bien. Au revoir.
Merci.
Merci.